Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces moments de privilège. Nous pouvons librement offrir ta parole. Et d'une façon humble, nous prions que ce soit ton esprit qui l'attache à notre cœur en fonction de notre situation, si c'est encouragement, exhortation, quoi qu'il en soit. Nous sommes dans tes mains. Bénis-nous. Amen. Joachim, Nelly, Dan, qu'est-ce pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une montagne russe, un examen et les 20 km de Bruxelles. Quelqu'un peut vous aider aussi. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une montagne russe, un examen et les 20 km de Bruxelles. T'es Emmanuel? J'ai pas compris. On doit faire un effort, exactement. Pour les trois choses, on doit faire un effort, plus grand au plus petit, et les trois demandent une préparation, plus longue ou plus courte. Dans chacun des cas, sont des cas très différents, on aime savoir les choses, comment les choses vont se dérouler. Dans le cas de la montagne russe, quel est l'auteur exactement, de quel auteur on parle, combien de loopings on doit se mentaliser. Dans un examen, c'est clair, combien de questions, combien ça durait, c'est pas la même chose, une heure que quatre heures. Et dans les 20 km de Bruxelles, quel est le parcours et quels sont les poids d'approvisionnement. Donc toute cette information est cruciale pour une bonne préparation. Prenons l'exemple aussi d'une procédure médicale où il y a un composant des difficultés ou des souffrances. Nous aimons connaître exactement la date pour anticiper ces moments. Le déroulement et les niveaux de complexité, est-ce que ça sera simple ou quelque chose de complexe? Sera-t-elle douloureuse pour moi? Et plus nous disposons d'informations à l'avance, mieux nous sommes préparés mentalement pour l'affronter. Dans ce chapitre, nous voyons comment l'esprit prépare Paul pour les souffrances à venir. C'est un chapitre plein d'émotions. Et nous l'avons commencé dans un sens la semaine passée, dans le chapitre 20, après le départ de Milet, où Paul a pris congé des anciens. Ce chapitre raconte son parcours à travers les différentes étapes jusqu'à son arrivée à Jérusalem. Dans ce passage, le fait d'aller à Jérusalem n'était pas un voyage comme un autre. D'un côté, Paul, c'est vrai, il avait l'intention d'aller là-bas pour apporter les offrandes des croyants non-juifs dans le but d'unir l'Église et de montrer que les nouveaux croyants non-juifs voulaient aussi répondre aux besoins des Juifs à Jérusalem. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Paul reconnaît que c'est l'Esprit Saint qui le conduit à Jérusalem pour poursuivre sa mission. Lors de son arrivée à Jérusalem ne sera pas une simple visite, mais un moment décisif qui va faire une transition entre les trois voyages qu'il a fait avant et la suite de son ministère. D'ici, durant devant, Paul témoignera de Jésus devant les Juifs, des autorités romaines et même devant un roi. Nous avons loué, merci Isabelle, il y avait beaucoup de villes ici dans ces passages et on risque d'être un peu perdu, mais sachez qu'il y a trois étapes principales dans ces passages. Il y a Tyr, où il reste sept jours. Deuxièmement, il y a Ptolémaïe, où il reste un seul jour. Et la troisième étape, c'est Césarée, où il reste plusieurs jours, une durée indéterminée. Ce sont les trois étapes que vous devez retenir, et les autres sont des points intermédiaires. D'abord, et c'est la question que j'avais mise, à quoi ça sert toute cette information? J'ai eu du mal à pourquoi c'est relevant de savoir tous ces lieux et tous les détails, et quel est le sens de ces passages. Mais avant d'entrer dans les détails, avez-vous remarqué la immense richesse de tous les détails qu'il y a dans ces textes? Les noms des lieux, des personnes, les durées exactes. D'abord, tout cela sert à souligner la valeur historique de tous les récits de l'Évangile. Selon Luc, quand il commence son Évangile, il dit que lui-même s'est soigneusement informé de toutes les choses dès l'origine, afin de les exposer de manière cohérente, sur l'inspiration de l'Esprit. Donc, dans un point de vue historique, ce n'est pas la même chose de dire « on est parti vers l'Orient et on a rencontré des frères » que de dire « on est passé par ici, par là, 7 jours ici, après on est parti ». Tous ces détails disent « ça c'est vrai, ça c'est un récit historique et ça donne de l'authenticité au récit biblique ». Pendant ces voyages, l'Esprit prépare Paul pour les souffrances qui l'attendent et on ressent la tension jour après jour. Et Jérusalem s'approche de plus en plus. Comment demeurer ferme lorsque suivre Jésus devient coûteux? Comment rester fidèle à Dieu au milieu de la souffrance? Nous allons voir l'attitude de Paul tout au long de ces chapitres et nous allons considérer quelques applications pour nous. Et pourtant, le titre de ces messages, c'est « Prêt à souffrir pour Jésus ».« Prêt à souffrir pour Jésus ». Et nous allons considérer 3 aspects qui émergent de ces passages. Le premier, comment l'Esprit annonce les souffrances à venir. Comment Paul est fortifié par l'amour fraternel. Et troisièmement, comment Paul est résolu à obéir par amour. Ces 3 aspects dans le texte ne sont pas nécessairement linéaires. Mais on les retrouve tout au long des 3 étapes que j'ai mentionnées à Tyr, à Ptolémaïe et à Césarée. D'abord, l'Esprit prépare. L'Esprit Saint annonce les souffrances à venir. Mais plus exactement, l'Esprit continue à préparer Paul. Et nous disons intentionnellement « continue à préparer », »,« continue d'annoncer » car l'Esprit lui avait déjà révélé à plusieurs reprises qu'il allait souffrir. Déjà dans le chapitre 9, quand Luc relate sa conversion, Dieu dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et la semaine passée, grâce à Ben qui prêchait, on a vu aussi que Paul témoignait, il disait dans le chapitre 20, « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » L'Esprit ne cherche pas à décourager Paul, mais cherche à le préparer pour l'adversité. Car dans la mesure que nous sommes capables d'anticiper une situation, nous sommes mieux préparés à y faire face. Ici, dans ce chapitre, nous voyons du moment où il y a des avertissements explicites. Le premier, le verset 4 qu'on a lu, « Poussé par l'Esprit ». On ne sait pas le contenu exact, mais il s'agit d'un avertissement explicite à ce moment-là. « Poussé par l'Esprit », les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et après, pendant la 3e étape à Césarée, le prophète nommé Agabus est descendu de Judée pour mettre en scène la prophétie, selon ce qu'on vient de lire. À cette époque, Dieu parlait encore par l'intermédiaire des prophètes. D'une façon similaire à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, pour ceux qui prenaient note, Jérémie 19, par exemple, où Jérémie a pris, selon les instructions de Dieu, une cruche et l'a prise pour illustrer que Dieu brisera les peuples à cause de sa désobéissance. Il arrivait que les prophètes illustraient leur message par une mise en scène symbolique destinée à renforcer l'impact de ces paroles. L'Esprit, donc, intensifie les avertissements adressés à Paul afin de les préparer pleinement à son arrivée à Jérusalem. Mais une première lecture peut nous prêter à confusion parce que l'Esprit 4 dit « poussé par l'Esprit ». Ils ont essayé de décourager Paul. Mais Paul avait la résolution d'aller à Jérusalem poussée par l'Esprit aussi. Est-ce une contradiction? L'Esprit dit-il des choses différentes à des personnes différentes? Non. Même si la manière dont le texte est rédigé peut donner cette impression, Luc est trop rigoureux pour introduire une telle contradiction dans le même passage. Ce n'est pas l'explication. L'explication est plutôt simple. L'Esprit annonçait les événements à venir, des faits objectifs. Et ce sont les chrétiens qui ont ajouté leur propre interprétation à ces faits, influencés par l'amour profond qu'il avait pour Paul. Et sûrement, vous êtes en train de penser à Pierre. De la même manière que Pierre avait essayé d'empêcher Jésus d'aller à la croix lorsqu'il annonçait sa mort, ici, les frères, bouleversés par les révélations de l'Esprit et par leur amour par Paul, cherchent à les dissuader de poursuivre son projet. Luc y compris, si vous avez remarqué. Mais il ne faut pas voir ces réactions comme une rébellion contre la volonté de Dieu, mais plutôt comme une réaction humaine, légitime, née d'un amour sincère pour Paul. Et nous avons vu par la suite que les chrétiens changent d'avis et leur attitude n'était pas donc rebelle. Mais face à tous ces avertissements de l'Esprit, quelle est l'attitude de Paul? Comment réagit-il? Ce passage nous montre comment Paul est fortifié pour poursuivre sa mission. Il est fortifié, premièrement, par l'amour fraternel. Car s'il y a une chose qui ressort de ce passage, ce sont les liens fraternels. Le texte est chargé d'amour et d'une grande intensité émotionnelle, si vous avez remarqué. Après le discours du chapitre 20 qu'on a médité la semaine passée, le premier verset de ce chapitre dit « Après nous être séparés, nous avons pris la mer ». La façon dont Luc utilise les mots dans l'original, ça veut dire « Après nous sommes arrachés les uns les autres ». C'est une séparation difficile. Paul et ses compagnons arrivent à Tyre, la première étape qu'on a mentionnée, et ils sont restés là 7 jours. Et d'après tous les récits d'actes, rien n'indique qu'il y soit déjà venu auparavant. Ce que l'on sait, c'est qu'après la mort d'Étienne, il y a plus de 20 ans, les chrétiens avaient quitté Jérusalem à cause de la persécution menée par Paul. Paul ne connaissait pas les chrétiens à Tyre, mais il les cherche activement. Le verset 4 dit « Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. » Mais l'expression « nous avons trouvé » aussi, les mots que Luc utilise, ne veut pas dire « Ah voilà, des chrétiens, quelle surprise, on va rester chez eux. » Non, ça implique que Paul, activement, il a cherché des chrétiens là-bas. Et comme conséquence, il les a trouvés, il a resté avec eux. Le passage dit que les bateaux devraient s'arrêter pendant 7 jours. C'était probablement par la route qu'il a, si l'île de Chypre, si vous avez un peu les maps dans vos têtes, l'île de Chypre était à gauche, donc il a traversé, il n'a pas fait toutes les côtes. Donc c'était un grand bateau avec une cargaison importante. En seulement 7 jours, Paul avait gagné leur cœur. Seulement 7 jours. Avec des chrétiens qui ne connaissaient pas avant. Paul a gagné leur cœur, au point que, verset 5, tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Et nous nous sommes priés ensemble à genoux. Tout juste après, lors de la deuxième arrête à Ptolémaïe, verset 7, il salue les frères et sœurs et il passe une journée avec eux. Il ne faut qu'un seul jour sur une ville pour que Paul cherche aussitôt la communion avec les chrétiens. De plus, lors de la troisième étape, à Césarée, il loge Philippe l'évangéliste, l'un des 7, expliqué dans le chapitre 6 des Actes. Et il reste plusieurs jours. C'est Philippe, il ne faut pas le confondre avec l'apôtre Philippe, c'est Philippe l'évangéliste. Nous n'avions plus de nouvelles de Philippe l'évangéliste depuis Acte 8. lorsque les chrétiens furent dispersés à cause de la persécution qui suivit la mort d'Étienne. C'est à cause de cette persécution que Philippe a quitté Jérusalem et s'est installé à Césarée, une ville importante, selon les experts, était considérée comme les portes de Jérusalem. Mais tout ça pour dire que Paul n'a manqué aucune occasion d'être entouré de chrétiens. C'est Philippe ici qu'on vient de lire. Il avait quatre filles qui prophétisaient. Cela peut indiquer soit qu'il annonçait la bonne nouvelle, comme son père, d'une façon fidèle et constante, ou bien qu'elle avait reçu le don de la prophétie, selon Pierre raconté dans Actes chapitre 2. Néanmoins, nous ne savons pas si elles ont annoncé quoi que ce soit à Paul au sujet de la souffrance à venir. Et Luc, autrement, aurait dit quelque chose, mais il reste silencieux dans ces points-là. Ce qu'il a annoncé, c'est que ces quatre filles, ils ont eu une vie très longève. On dit longève, hein? Oui. Une vie longève et particulièrement longue. Et grâce à ces quatre filles, on a beaucoup appris de la vie de l'Église primitive. Cette visite était importante. Rencontrer Philippe l'évangéliste, c'était comme faire un petit voyage dans le passé pour Paul. Il est logique de penser que Philippe a raconté à Paul comment il avait quitté Jérusalem, il avait fini par s'installer à Césarée suite à la mort d'Étienne. C'est Actes chapitre 11 qui dit littéralement « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution sont revenus après la mort d'Étienne à l'air jusqu'à Phénicie. » Donc, il est très probable que Luc a compilé toutes les informations du chapitre 6 à 8 pendant cette visite avec Philippe, l'élection de Seth, la mort d'Étienne, la dispersion qui a suivi. Paul a certainement été fortifié en constatant que les dieux souverains agissaient, même lorsqu'il lui-même persécutait l'Église. L'Esprit Saint avait utilisé les chrétiens dispersés pour annoncer l'Évangile dans d'autres régions. Et plus de 20 ans plus tard, la communauté chrétienne était en bonne santé spirituelle et bénie par Dieu, car personne ne pouvait s'opposer au plan souverain de Dieu. C'était la même expérience personnelle de Paul, quand Paul a connu et a rencontré directement Jésus. Et Jésus l'a demandé « Pourquoi me persécutes-tu ? Il te sera dur de te révéler contre les aiguillons. » Paul est fortifié en prenant conscience de la perspective historique aussi du plan de Dieu. Et les voyages poursuivent avec un disciple ancien, selon le texte, Nason. Et après, il arrive à Jérusalem, verset 17, à la fin. Il dit, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Qu'est-ce qui touche dans ces passages? C'est que Paul ne cherche pas à rester seul. Paul ne cherche pas à être isolé. Et peut-être que ça été une réaction tout à fait compréhensible face à un moment éprouvant. Quand on fait face à des difficultés, dire « moi je vais être isolé, laissez-moi, je dois réfléchir par moi-même, je dois me préparer ». Mais au contraire, partout où il s'arrêtait, il cherchait toujours de l'accompagner des chrétiens. On ne voit pas en lui non plus quelqu'un qui fait semblant d'aimer, par devoir ou par convenance, mais son amour était authentique et sincère. Il désirait profondément être entouré des frères et sœurs dans la foi. Il est essentiel de voir que Paul ne se contentait pas seulement d'annoncer l'Évangile, mais il offrait aussi son cœur. On dit d'autre façon, pourtant, véritablement, pouvons-nous véritablement partager l'Évangile, sans partager notre cœur aussi, sans aimer sincèrement les personnes avec qui nous partageons. Et on remarque que Paul n'investissait pas seulement son temps dans une transmission intellectuelle de l'Évangile, mais il cultivait aussi des relations d'amour fraternel avec les chrétiens. Et au lieu de dire simplement dans ces finales de cette étape des trois voyages, ma tâche est terminée ici, au revoir. Paul cherche activement la présence des frères et sœurs pour prier avec. Il ressent profondément les besoins de communion, des prières partagées, d'encouragement mutuel. C'est comme si le corps de Paul était fragmenté et dispersé dans tous les lieux où il avait partagé l'évangile. Franchement, quelle transformation dans la vie de Paul. Gloire à Dieu pour cela. Cet homme qui, autrefois, faisait peur à tout le monde et allait de maison en maison pour arrêter les chrétiens et même pour les faire tuer, c'est aujourd'hui l'homme qui rentre dans les maisons pour aimer, pour prier, pour encourager. Il cherche activement la compagnie des chrétiens, d'hommes, femmes, des enfants, non plus pour les persécuter, mais pour vivre la foi avec eux. Paul est fortifié sincèrement pour cet amour fraternel. Avant, c'était lui qui faisait souffrir l'Église. Maintenant, c'est lui qui est prêt à souffrir pour elle, par amour pour Jésus. Mais cela nous amène au troisième point. Paul est résolu à obéir par amour. Paul est résolu à obéir par amour. D'un côté, être entouré des croyants est une source de bénédiction et ça nous aide à faire face aux difficultés. De l'autre, nous voyons aussi l'importance de la dimension individuelle. Car la véritable détermination à obéir à Dieu, quoi qu'il en coûte, naît d'une relation profonde avec lui. La véritable détermination à obéir, quoi qu'il en coûte, naît d'une relation profonde avec lui. Et Paul était résolu à aller à Jérusalem. Il comprenait par l'Esprit que c'était la volonté de Dieu pour sa vie. De la même façon que l'Esprit lui avait interdit d'aller en Asie, dans Actes chapitre 16, ici il comprend parfaitement que l'Esprit le puisse aller à Jérusalem. On verra par la suite de ce passage qu'il aura, d'ici à la fin du livre, l'opportunité d'exposer l'Évangile au gouverneur Félix, au gouverneur Festus, et puis au roi Agrippa, qui c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu lors de sa conversion. Paul savait que le but de Dieu pour sa vie était de lui rendre la gloire, même en prison. Il savait très bien, grâce à sa relation proche avec Dieu, que les souffrances forcément feraient partie du chemin. Pendant les 7 jours passés à Tyr, les chrétiens essaient de convaincre Paul de ne pas poursuivre ces routes, mais il reste silencieux. Luc ne raconte pas aucune réaction de la part de Paul. Mais à Césarée, lorsqu'ils sont là-bas après plusieurs jours, et le prophète Agabus met en place sa prophétie, tous, Luc inclus, tous, essaient à nouveau de dissuader Paul par leur supplication. Leur compréhension de la volonté de Dieu était erronée, mais motivée par un amour sincère pour Paul. Paul, par la toute première fois dans ce passage, réagit en disant « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ?» Et le sens que Luc donne là-bas dans ce texte, comme on prend maintenant, on a une machine à laver, mais avant l'enseignement, on faisait manuellement et on frappe les vêtements pour les laver. On frappe, c'est ce sens-là que Luc a écrit ici. Que faites-vous là en train de me frapper le corps avec ces supplications? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. On doit comprendre que Paul n'était pas un homme têtu, ni un masochiste qui ignorait les avertissements de l'Esprit. Il était en train de se préparer pour la suite, pleinement conscient que cela faisait partie de la volonté de Dieu pour sa vie. Luc aussi, dans ses passages, c'est un peu plus subtil, mais très intentionnel de la part de Luc, inspiré par l'Esprit. Il fait que nos pensées fassent les liens entre Paul et Jésus. Les liens entre les avertissements, parce que Jésus aussi avait annoncé à plusieurs reprises. Il dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Luc aussi laisse un lien avec Jérusalem en tant qu'un destin hostile. Et c'était Jésus aussi qui dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. On voit les mêmes sens ici dans ces passages. Et on voit aussi une liaison avec la ferme résolution d'aboutir la volonté de Dieu. C'est Luc même qui écrit par rapport à Jésus, il dit: lorsqu'ils s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution, littéralement il affermit son visage pour se rendre à Jérusalem. Et lorsqu'il prêchait, il priait à Gethsémani, et on voit un peu les ressemblances avec ce qui s'est passé à Césarée, avec Philippe, dit: mon père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le texte ne dit pas que Paul faisait exactement la même chose que Jésus, ça c'est rien de bêtis, mais que Paul est présenté comme un exemple d'obéissance parfaite à son maître, et du coup un exemple pour nous. Paul est présenté comme un modèle lorsque nous traversons des situations semblables, lorsque l'Esprit nous fait comprendre que les schémas de Dieu, les volontés de Dieu pour notre vie impliquent de la souffrance ou des difficultés, soit à cause d'être chrétien, à cause du nom de Jésus, ou soit à cause de notre difficulté. Comment on peut rendre gloire à Dieu? Donc, Paul est présenté un exemple afin que nous aussi, nous puissions penser, si possible, mon Père, j'aimerais que cela ne m'arrive pas, mais que ta volonté soit faite. Je vais obéir par amour. Tous ceux qui accompagnaient Paul ont fini par dire la même chose. Verset 14. Comme Paul ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit: que la volonté de Dieu soit faite. Andrew Murray, pasteur réformé, écrivain, les secrets de la vraie obéissance est une relation personnelle avec Dieu. Le secret de la vraie obéissance est une relation personnelle avec Dieu. Et aussi Dietrich Bonhoeffer disait: l'obéissance est la réponse de la foi à la parole de Dieu, et cette réponse se prépare dans le silence. Si d'un côté l'isolement est néfaste, et nous avons besoin d'être édifiés et fortifiés les uns avec les autres par l'amour fraternel, de l'autre côté, c'est vrai que la solitude mesurée, cette intimité avec Dieu, est l'atelier où Dieu transforme et affermit notre corps. Cette solitude avec lui, c'est l'atelier où Dieu transforme et affermit notre corps. C'est dans ces moments de solitude que Dieu nous rappelle en secret la grâce transformatrice dans notre vie. Qu'il nous rappelle et il nous rappelle notre passé avec douceur. Qu'il nous rappelle son amour pour nous. Et qu'il nous rappelle la mission qu'il nous a confiée ici-bas, individuelle. L'Esprit a affermi le corps de Paul en vue de son arrivée à Jérusalem. Et on sait que parmi les autres épîtres, et avant qu'il arrive à Jérusalem, il avait écrit, pas exactement dans ses voyages, mais plus ou moins à la même période, il avait écrit Corinthiens et Romains, et il avait écrit 1 Corinthiens 15. En fait, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite pas même d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été son résultat. Et il écrivait aussi Romains avec la même pensée. Qui nous séparera de la mort de Christ? Les textes qu'on a lus avant, pendant la présidence. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Paul, après les avertissements de l'Esprit, était fortifié doublement, grâce à cet amour fraternel, mais aussi résolu à obéir suite à ses relations intimes, secrètes avec Dieu. Donc, à mot de conclusion, dans ces passages, nous voyons comment l'Esprit prépare Paul pour la deuxième étape de son ministère pour sa vie. Et Paul est fortifié de ces deux manières. Fortifié par l'amour fraternel sincère et résolu à obéir. En même temps, Paul est présenté comme un exemple vivant de fidélité au service de Jésus. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas chercher les souffrances. Dieu ne prend pas plaisir à voir qui souffre le plus. Mais si ça arrive, alors nous devons être résolus à souffrir pour Christ, si cela fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. Mais nous avons l'encouragement de Jésus, qu'on a juste avant de commencer. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde.